Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous. Après l'affaire Cicéron sur l'espion turc à la solde des Allemands, je vous propose de découvrir un espion à la solde des Alliés, un espion allemand, Fritz Kolbe. Fabrice d'Almeida, bonjour.
Bonjour.
Alors, cet espion était-il vraiment à la solde des Alliés ?
Ben non, justement, c'est un peu ce qui fait son originalité, c'est qu'il n'est pas payé. À la différence d'autres espions qui, justement, on peut même dire que c'est peut-être un trait constitutif de l'espion, c'est qu'on a l'impression qu'il est mu uniquement par l'intérêt. Or, Kolbe, pas du tout. Il va arriver, il va donner ses informations, il va donner des détails extrêmement importants tirés de dépêches du ministère des Affaires étrangères allemand pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais il ne demande rien en échange de cela. Aucun argent, aucun avantage. Et c'est peut-être ce qui va le rendre au début un peu suspect aux yeux des services secrets américains qui vont le recruter.
En somme, il faut vraiment demander de l'argent
pour être sérieux.
Pour être pris,
il faut toujours.
Sérieux. Alors, c'est un personnage assez obscur parce que sur le plan historiographique, il n'existe quasiment rien sur lui.
Oui, c'est un petit peu un de ces héros de l'ombre et qui a été exhumé il y a peu, il faut le dire, par un journaliste français, Lucas Delattre, qui a sorti une biographie sur ce personnage en 2003.
Auparavant, chez De Noël.
Voilà, oui, chez De Noël. Auparavant, il y avait eu dans les années 50 un ou deux articles qui s'appuyaient notamment sur le témoignage d'agents américains qui racontaient leur Deuxième Guerre mondiale, qui était paru sur la question. Ensuite, il y avait eu dans un livre un article sur ce personnage, un livre dirigé par Stéphane Courtois et Adam Rimes, qui était sur qui savait quoi pendant la Deuxième Guerre mondiale, et donc ils avaient utilisé ce personnage pour en témoigner. Et puis en 2001, il y avait eu un dossier dans le Spiegel autour de lui, mais finalement, pas de livre, pas de recherche approfondie sur le personnage, et donc il faut attendre 2003 et l'enquête de Lucas Delattre pour que ce personnage sorte de l'ombre. Et de fait, il va, ce livre, avoir une importance considérable pour réhabiliter cette figure, la faire sortir de l'obscurité, et en septembre 2004, finalement, Joschka Fischer va rendre un hommage officiel au nom du ministère des Affaires étrangères allemand à celui qui, entre 1945 et 2004, avait été considéré comme une sorte de traître du ministère des Affaires étrangères.
Ouais. C'est-à-dire qu'il était pris en quelque sorte, non pas entre deux feux, mais d'un côté, il avait ses Anglais et ses Américains qui ne lui reconnaissaient pas ce qu'il lui devait, et de l'autre côté, les Allemands qui le considéraient comme un traître.
Mais c'est-à-dire qu'il y a un peu cette ambiguïté-là. C'est-à-dire que l'Allemagne, qui se reconstitue au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier le ministère des Affaires étrangères, va être un ministère finalement assez peu épuré, et où une grande partie des cadres vont être des hommes qui ont servi sous le Troisième Reich et même ont fait de belles carrières sous le Troisième Reich. Or, par rapport à eux, Fritz Kolbe, bon, qui a commencé au départ sa carrière, hein, c'est un fils de commerçant, donc vraiment une petite bourgeoisie. Il a commencé sa carrière au départ au chemin de fer, et puis il est finalement rentré au ministère des Affaires étrangères, au Auswärtiges Amt, hein, le ministère des Affaires étrangères allemand. Il a servi dans divers consulats, il a servi en Espagne, il a servi en Afrique du Sud, et il se retrouve finalement, au moment de la guerre, il est rappelé, et il va se retrouver à l'administration centrale. Et donc c'est là qu'il va pouvoir jouer son rôle d'espion. Donc, c'est un personnage qui est inscrit dans le ministère des Affaires étrangères et qui va être considéré par ceux qui ont fait carrière à côté de lui, un peu comme celui qui trahit. En même temps, il faut le dire, qu'a-t-il trahi ? De son point de vue, rien ni personne. En réalité, Kolbe est, dès le début du régime, un anti-nazi.
C'est le parfait anti-nazi, parce qu'il ne rentre absolument à aucun moment dans le jeu de séduction du nazisme.
Exactement. C'est peut-être là un personnage tout à fait intéressant pour réfléchir à la question de la résistance. Qu'est-ce que c'est que la résistance intérieure allemande ? En gros, jusqu'à présent, on avait deux types qui s'opposaient. Le premier type, les jeunes de la Rose Blanche. Vous savez, ce groupe d'étudiants qui, à Munich, va distribuer des tracts et qui, en 1943, va être condamné extrêmement violemment, condamné à mort, hein, dont une jeune fille d'à peine 18 ans qui va se retrouver, hein, décapitée. Il faut le dire, hein, c'est une scène terrible. Et donc, il y avait de l'autre côté, le deuxième type de résistants, ces militaires qui, le 20 juillet 1944, vont placer la bombe dans le bunker. Bon, deux types, mais deux types qui, au fond, manifestaient quelque chose de très différent. Un peu le renouveau de la jeunesse, une jeunesse qui aurait été écœurée, et de l'autre côté, des gens qui avaient été dans le régime, qui pensaient que le régime risquait de les conduire sur une mauvaise voie, et qui donc voulaient le décapiter pour le maintenir et le changer. Là, Kolb, c'est un troisième type, un genre tout à fait étrange, puisqu'il ne prendra jamais sa carte au parti nazi, puisqu'il est en partie mal vu de ses collègues. C'est-à-dire qu'il fait bien son travail au sein du ministère des Affaires étrangères. Mais il est mal vu parce que, par exemple, il ne fait pas le salut nazi quand il entre dans un bureau. Par exemple, quand il rentre dans le bureau du secrétaire d'État, Martin Luther, qui est le secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, il se fait réprimander plusieurs fois parce qu'il ne lui fait pas le salut nazi. Et Luther lui dira « Faites attention, je vous ai à l'œil maintenant ». Et donc, à partir de là, il comprendra qu'il ne faut pas qu'il aille trop loin dans la provocation s'il ne veut pas, à son tour, c'est ce que lui a dit Luther, s'il ne veut pas disparaître. La menace était explicite. Donc, il continue son travail, mais en même temps, il a une rage sourde et une envie profonde que ce régime se termine. Et selon lui, le seul moyen d'y mettre fin, c'est une victoire alliée. Mmh. Et donc, au fur et à mesure que la guerre avance, il n'a qu'un désir, c'est faciliter le travail des alliés pour qu'ils détruisent le régime. Et finalement, un jour de 1943, il va trouver l'opportunité de rencontrer le bon interlocuteur.
Alors, comment se traduit cette action en faveur des alliés? Quel type de document Kolbe peut-il transmettre? Et au fond, quelle est son histoire d'espion?
Bon, alors, son histoire d'espion, elle va commencer quand il va rencontrer un personnage que dans un sens, on n'aime pas beaucoup en France, qui s'appelle Alan Dulles, qui est le patron de l'OSS pour l'Europe, donc de l'Office des services secrets, c'est pas OSS 117 en l'occurrence, mais c'est le patron des services secrets américains, créé pendant la Deuxième Guerre mondiale, l'ancêtre de la CIA. Mmh. Et lui, il est le patron pour la branche Europe, tandis que le chef de tout cela, c'est Donovan, qui est le grand responsable de l'OSS pendant la guerre. Bon, Dulles est à Berne, dans une résidence, et un soir de 1943, il va avoir la visite d'un personnage qui vient et qui lui dit « Voilà, je travaille au ministère des Affaires étrangères allemand. Mon rôle consiste notamment à faire la liaison avec l'état-major et donc à transporter des documents de ministère à l'état-major. Et donc, ce que je vous propose, et il en a amené un certain nombre avec lui, bien c'est d'en détourner, de vous les donner et de devenir votre informateur. » Dulles, il faut bien le dire, il commence à mettre en place son réseau en Europe et il n'est pas certain d'avoir le bon contact. Il redoute, comme tout patron de l'espionnage, d'être victime d'une intoxication, d'un double jeu, d'un agent double.
D'autant plus qu'il ne veut pas se faire payer.
Exactement. Donc là, il se dit, qu'est-ce qui le meut? Alors évidemment, il dit son antinazisme. Mais est-ce si certain? Apparemment, sa famille n'a pas été menacée. Il n'est pas juif. Vous voyez ce que je veux dire? Toutes les raisons évidentes qu'il y aurait une trahison, dans son cas, ne semblent pas s'appliquer. Mmh. Donc, sa vache se met un trouble. Donc, il envoie à Londres, auprès de l'OSS Londres, qui collabore avec les Anglais, une fiche sur ce personnage en demandant des renseignements. Et on va rendre au départ un avis défavorable. Il va se passer pratiquement 3 mois pendant lesquels ils reçoivent des informations, mais elles sont tenues pour suspectes. Et c'est seulement à partir de janvier 1944 qu'on va commencer un peu à prendre au sérieux Kolbe comme espion, mais sous son nom d'emprunt, sous son nom caché. C'est le matricule 25900 qui correspond à ses dates de naissance. Il est né en 1900 et en même temps, il va avoir un surnom qui va être George Wood. Alors, qu'est-ce qu'il donne? Il va donner énormément de choses. Il va donner des choses passionnantes pour les Américains. Il va donner des choses qui viennent de l'ambassade d'Allemagne à Tokyo. Donc, il donne des informations stratégiques sur les bases nippones. C'est fondamental au moment où on est en pleine guerre du Pacifique et où il faut soutenir l'effort de guerre supplémentaire. Il va donner des informations sur le fonctionnement interne de la défense allemande et notamment là où les Allemands s'attendent à avoir un débarquement. Donc, ça va permettre d'anticiper. Ça va permettre de voir là où il y a des nœuds de défense plus faibles. Donc, au fond, il va donner des informations vitales, mais qui vont toujours être regardées avec un petit air suspect. Et surtout, pour une raison, c'est qu'il va expliquer qu'il y a une taupe dans la diplomatie à Istanbul. Et ça, cette dénonciation-là, le fait qu'il dise « Voilà, il y a quelqu'un qui vous trahit à Istanbul, et en fait, c'est l'affaire Cicero », ça va le rendre éminemment suspect aux yeux des Anglais, qui ont le sentiment qu'il est en train de semer la zizanie
entre
au sein
les
des
alliés.
Services secrets. Mmh. Les Anglais, en plus, ayant le sentiment que ce sont eux les vrais patrons de l'intelligence, les vrais patrons du renseignement, et ces petits Américains, c'est pas possible qu'ils ramènent quelque chose. Et Dulles, qui en plus est le patron de cette petite annexe de Berne, c'est pas possible que ce soit lui qui tire le gros lot, en quelque sorte. Mmh. Donc il y a cette espèce de jeu de suspicion, de jeu d'hier. hiérarchie au sein des services de renseignement alliés qui fait qu'on va hésiter et finalement on va sous-exploiter, mais très largement sous-exploiter toutes les informations qu'il va donner.
Bon, on se doute qu'il frise le risque, mais est-ce qu'il sera ennuyé à un moment ou à un autre par la Gestapo ?
Non, alors c'est là où il est chanceux, c'est qu'il va... Bon, d'abord, il y a une bonne procédure qui est mise en place avec Dulles, des codes, des envois de cartes postales. On va lui donner un appareil photo au début de l'année 44, dont il va apprendre à se servir de mieux en mieux. Il va enrouler ses pellicules dans des vêtements, dans des documents, et il va les envoyer par poste à une adresse où il est censé, en quelque sorte, les envoyer à un camarade allemand de la légation allemande de Berne. Mmh. Et en réalité, c'est comme ça qu'il fait circuler ses documents et ses informations. Et ça va marcher. Il y a juste à deux ou trois reprises, comme ça, il est un peu chaud. Notamment, un jour, il a deux rouleaux qu'il apporte bon, pour être expédié, ironie du sort, par la valise diplomatique, évidemment, pour ne pas qu'il soit fouillé par les autres services. Et donc, il est dans le bureau et l'employé, pour le coup, est un employé qu'il ne connaît pas d'habitude. Sa grande force à Fritz Kolbe, c'est qu'il est sympa. C'est un petit monsieur, chauve, cultivé et fin, qui fait de la gymnastique, donc t'as un côté un peu dynamique comme ça, et qui est très souriant et d'un commerce agréable. Donc ça, c'est sa grande force. Et il a noué comme ça avec tout un tas de petits personnels, les gens du service du courrier, la secrétaire de son étage, la secrétaire qui s'occupe des expéditions, la secrétaire du chef de service, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis une autre personne qui lui permet de faire des photocopies au début, la secrétaire du professeur Ferdinand Sauerbruch, le plus grand chirurgien du Troisième Reich. C'est son ami. Ils se sont rencontrés pour une histoire de passeport et ils ont noué sympathie comme ça. Donc vous voyez le personnage, c'est à peu près ça. Et là, dans ce bureau, il y a un nouveau personnel qu'il ne connaît pas et il commence à fouiller dans le détail les vêtements et il va trouver les rouleaux de pellicule. Coup de chance pour lui. À ce moment-là, rentre un collègue et Kolbe va lancer une conversation intéressante. L'employé se désintéresse des vêtements, finit par refermer le colis, le cacheter et bon, l'expédition va partir.
Alors, Luca Delattre, auteur du livre Fritz Kolbe, un espion au cœur du Troisième Reich, paru chez De Noël, écrit que malgré son isolement absolu, Fritz Kolbe fut l'un de ceux qui influèrent sur le cours du conflit.
Oui, c'est clair que ce rôle d'espion, d'abord, il a permis de limiter les fuites en direction de l'Allemagne, c'était très important en termes de contre-espionnage. Le fait de démanteler l'affaire Cicero, ça sauve une partie des hommes et des armées anglaises. Et puis de l'autre côté, les informations qu'il va donner vont être vitales sur l'évolution du conflit et vont effectivement hâter la défaite de l'Allemagne.
Alors, nous l'avions dit tout à l'heure, l'histoire de Fritz Kolbe est aussi amère. Que devient-il après la Deuxième Guerre ?
Alors, c'est peut-être là le côté le plus absurde, c'est que ben après la guerre, il y a une première phase pendant laquelle tout est démonté. Hein. De 1945 à 1949, l'Allemagne, c'est le pays occupé, pas de gouvernement. Bon, donc il essaye de se débrouiller. En même temps, il va être reçu et traité par les services secrets américains. C'est-à-dire qu'il est arrêté, il réussit à passer en avril 45 en Suisse. Il rejoint Dulles qui va le recevoir. Il va être plus tard présenté à Donovan qui va se réjouir de le rencontrer. Mais il va là avoir une espèce de phase où les Américains vont se mettre un peu à douter de lui parce qu'ils attendaient qu'il parvienne à convaincre les gens de la légation de Berne de se remettre du côté allié et donc de quitter le gouvernement nazi. Or, il va échouer dans cette tâche, donc ça va lui donner une espèce de léger discrédit par rapport à ce qu'on attendait de lui. Et donc, il ne va pas être traité extrêmement bien comme l'ont été d'autres espions. On ne va pas lui proposer un emploi mirifique, on ne va pas lui proposer un soutien particulier. Et donc, il va être un petit moment comme ça aidé juste pour la fin de la guerre. Et ensuite, il revient en Allemagne et il va devoir se débrouiller pour vivre. Quand est créée la République fédérale en 1949, on recrée le ministère des Affaires étrangères. Et Kolbe, comme beaucoup d'anciens fonctionnaires, va demander à entrer en 1950. Mais évidemment, ceux qui vont examiner son dossier sont en fait d'anciens dirigeants du Troisième Reich qui connaissent désormais sa trahison et qui vont juger qu'un tel homme est indigne de servir dans la fonction publique allemande. L'idée, ce n'est pas qu'il a trahi les nazis. L'idée, c'est qu'il a trahi l'Allemagne.
Que devient-il ?
Et ben donc, il va s'occuper de vendre des aspirateurs, de vendre des machines agricoles. Et il va avoir, au fond, une petite vie de représentant dans l'Allemagne de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Il va éduquer son fils et puis, eh bien, il meurt au seuil des années 70. Inconnu, méconnu en tout cas de ses contemporains, en un sens un peu frappé d'indignité, alors même qu'il a été, à mes yeux, un des grands héros de cette période.
Eh bien, c'est sur cet héroïsme, cet esprit d'héroïsme que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Fabrice Dalmeida. Et nous nous retrouverons pour un nouveau Portrait d'espion très bientôt.